my friend, don't let me go. Please, my friend, don't let me down. Please, my friend, don't let me go. Please, my friend, don't let me down. Sache que c'est une maladie qu'il est peut-être écrit dans mes gènes. Je n'ai pas causé cette tragédie, celle qui transforme ma vie en migraine. But please, my friend, don't let me go. Please, my friend, don't let me down. Please, my friend, don't let me go. Please, my friend, don't let me down. Car même si tu me dis de sourire, j'en ai tout, simplement plus la force. Tu penses que j'ai choisi de souffrir, de sentir cette douleur qui se renforce. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi vivre tout ça? Si ça c'est la vie, moi je n'en veux pas. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi.
Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait de la chanson sur la dépression interprétée par Rebecca Soul. Cette musique permet de rentrer dans le thème de notre émission de radio, la dépression. Nous allons essayer de comprendre cette maladie. Nous sommes un groupe d'habitants et d'habitantes de Arles, bénévoles dans plusieurs associations. Autour de la table, il y a moi, Sylvie, Edith, Philippe, Bertrand, Christelle, Marie-Jo et Lolita. Avec la participation d'Elsa de Micro-Rebelle, et notre invitée, Mila Rameau, psychologue clinicienne, qui est là pour répondre à nos questions. Cette émission est en direct et enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur le site de Micro-Rebelle. Un public pourra intervenir à la fin s'il le désire.
Qu'est-ce que la dépression? Nous vous donnons un aperçu à travers des symptômes, c'est-à-dire la manière dont on ressent la maladie, la manière dont l'esprit et le corps expriment la maladie.
Mal-être total. Rire et pleurer en même temps.
Tristesse, angoisse,
dégoût,
se sentir seul et abandonné,
changement subtil de comportement,
se sentir inutile,
avoir des idées noires,
avoir l'impression de ne plus servir à rien,
la descente aux enfers.
Est-ce qu'on est voué à rester dans son mal-être? Non, il existe des solutions pour s'en sortir. Nous y reviendrons tout à l'heure.
L'intruse. Tu es arrivé tout doucement dans ma vie comme un ver rampant, sans avoir été invité. Tu t'es emparé de ma tête, mon corps. Tu m'as obligé à me médicamenter. Par ta faute, j'ai connu des anxiétés, des nuits sans sommeil, de l'agressivité, l'incompréhension des autres, et que sais-je encore. Mais que crois-tu, l'intruse? Que tu as tout gagné? Que tu vas t'installer en moi, sans que je réagisse? Tu crois que je suis morte, ou presque? Eh bien non, je dis stop maintenant. Sache que j'ai décidé de te chasser. Je déteste les intrus. Et toi encore plus que les autres. De nouveau, je veux être actrice de ma vie, de mon corps, de mes joies, de mes peines, sans toi. Je te combattrai tous les jours, et un jour gagné sera comme une petite bataille. Au fil du temps, je gagnerai beaucoup de petites batailles. Vivre, rire, chanter, danser, tout ce que tu m'as privé pendant des années, je me le réapproprierai. Et toi, l'intruse, tu mourras. Et crois-moi, je ne te regretterai pas. Bye bye, l'intruse.
Christelle, qu'est-ce qui déclenche la dépression?
Il y a une multitude de causes. La vie stressante que nous menons peut amener à basculer dans les méandres de la dépression. Ça peut être dû à un choc familial, au travail, burn-out par exemple, à une déception amoureuse, au harcèlement, au divorce, à des problèmes financiers, à une incompréhension du corps médical, au baby blues postpartum. Cela peut toucher tout le monde, de tous les milieux sociaux, de tous les âges, enfants comme adultes, femmes et hommes.
Il y a différentes formes de dépression qui laissent toujours des séquelles. Il y a la dépression légère, majeure, grave et chronique. La dépression légère est momentanée et peut se soigner par la psychothérapie sans médicaments. Elle s'apparente plus à une déprime. L'humeur est changeante. La dépression majeure est plus lourde. Elle dure plus longtemps et la dépression grave implique un passage à l'acte et donc une éventuelle hospitalisation. La dépression chronique commence par une forte dépression, puis l'état s'améliore, mais toujours fragilisé avec des pics d'agressivité ou de fatigue, selon des événements qui peuvent intervenir à tout moment. La personne se connaît de mieux en mieux au fil du temps et arrive mieux à gérer sa situation.
Ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand le jour paraît, j'ouvre les volets pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je me fais mon soleil, même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante ma chanson. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Ça...
Comment ressent-on le regard des autres? Quelles sont les réactions des gens?
Parfois, l'entourage ne sait pas comment réagir, n'ose pas aborder certains sujets. Quand c'est la famille, il peut y avoir de la pitié ou des réactions violentes, alors que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Les réactions de la personne qui veut aider peuvent être interprétées différemment. On peut être facilement blessé par son incompréhension. Pour certaines personnes, la dépression est une maladie imaginaire. On peut entendre dire « c'est toi qui décaroches ». Parfois également, on nous renvoie méchamment dans une discussion « va voir un psy ». Il peut y avoir du rejet de la part de l'entourage. On constate que chez les hommes, c'est plus difficile à accepter la maladie. Avec un grand déni, il faut du temps pour comprendre.
Est-ce que la crise sanitaire a accentué la dépression?
Oui, ça a provoqué de plus en plus d'isolement avec un grand sentiment d'abandon, une impression d'être emprisonné. Des gens avaient peur de subir, de sortir pour se soigner. Pendant les différents confinements, on a constaté une augmentation des violences conjugales, les couples qui se séparent, les troubles de l'appétit, le repli sur soi. Il y a également de plus en plus de suicides, de masse d'informations et de désinformations, les mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles ont créé plus d'anxiété.
Face à ça, peut-on garder espoir? Comment peut-on vivre avec la dépression? Il faut apprendre à vivre avec. Pour cela, on peut sortir de chez soi, rencontrer d'autres gens, rejoindre des groupes de parole. Il existe le sport, la marche, la sophrologie, s'inscrire dans un club pour sortir de la routine et occuper son esprit à autre chose, garder le lien social, se téléphoner pour prendre des nouvelles et se rendre visite.
À présent, nous nous adressons à notre invitée, Mila Rameau, psychologue clinicienne. Merci d'être là. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Eh bien, comme vous l'indiquez, Mila Rameau, je suis psychologue clinicienne et je travaille en milieu hospitalier dans un service de psychiatrie d'un hôpital général qui est celui d'Arras. Et je m'occupe des services fermés, c'est-à-dire que les personnes hospitalisées dans ce service arrivent sans leur consentement, à la demande d'un tiers, et sont donc sous contrainte.
En quoi consiste votre métier ?
Eh bien, je travaille dans une équipe pluridisciplinaire avec médecins psychiatres, infirmiers, enfin les soignants, les personnes qui proposent un accompagnement social. Et mon travail consiste à accueillir les personnes et à proposer un accompagnement psychologique du point de vue institutionnel dans le service et à leur sortie, à l'issue de leur période d'hospitalisation. Et je m'occupe, comme ils sont souvent sous contrainte, souvent ils sont placés, quand ils présentent un risque suicidaire majeur, ils sont placés en chambre d'isolement et je vais les rencontrer dans ce cadre-là et pour introduire aussi un peu plus d'humanité parce que ce n'est pas facile à vivre, l'enfermement. Et voilà. Donc j'évalue avec eux le ressenti émotionnel de leur présence dans ce cadre-là. Donc j'ai une approche plutôt symptomatique puisque je travaille dans l'aigu. Hein. C'est un service de crise. Pas que pour des personnes dépressives, hein, c'est pour toute décompensation psychotique, dépressive, surtout pour les personnes qui présentent un risque majeur de suicide ou qui ont fait un geste suicidaire. Voilà. Bipolaire, enfin, toute pathologie confondue. Donc c'est un métier passionnant. Voilà. Et je suis très attachée à ma pratique, à mon service et au service public, voilà, pour ce qu'il en reste.
Comment définissez-vous la dépression, s'il vous plaît ?
Je pense qu'il est important de faire, si on peut, un distinguo entre... un état déprimé, une dépression, un état de déprime transitoire qui est passager, qui est réactionnel à une situation, on a un accident, on est choqué quelques jours, enfin, on perd un travail, on a une rupture sentimentale, c'est douloureux, mais c'est transitoire, on présente des effets de dépression quelques jours et on retrouve le cours de sa vie normale. En revanche, une dépression plus sévère, c'est à prendre au sérieux et c'est une maladie et qui touche d'ailleurs plus, vous disiez hommes et femmes, c'est vrai, mais plus particulièrement les femmes. Elles sont plus concernées par la dépression que les hommes. Elles font plus de tentatives de suicide. En revanche, les hommes, lorsqu'ils commettent un geste suicidaire, il est malheureusement souvent réussi. Vous voyez ?
Et
donc ça concerne environ 15% de la population générale. Tout le monde peut être concerné dans sa vie. C'est quelque chose à prendre au sérieux, à bien traiter pour éviter la récidive. Parce que plus la récidive interviendra et plus les chances de présenter des dépressions récurrentes se présentera aussi. Et sera plus difficile. Donc ça sera des dépressions un peu...
Je voulais vous demander aussi pourquoi les dépressions peuvent durer des années.
Parce que justement, elles ne sont pas si bien traitées, elles s'installent et elles deviennent récurrentes, elles deviennent permanentes, faute d'avoir été bien traitées au départ. Après, d'autres facteurs peuvent intervenir, comme les facteurs aussi familiaux. On recherche toujours un peu dans le contexte familial s'il y a des personnes qui ont présenté des épisodes dépressifs. Il y a un pattern quand même génétique. Ça peut intervenir, surtout dans la bipolarité. Non, pas forcément, mais il y a une empreinte génétique, surtout dans la bipolarité.
D'accord.
Pas une dépression mineure, hein, pas légère. Donc vous voyez, c'est très différent, hein, une dépression légère, réactionnelle à une situation, et un épisode dépressif plus sévère, où là, il y a véritablement une altération du fonctionnement psychique avec la vie courante de la personne. Elle ne peut plus, elle est épuisée, elle n'arrive plus à fonctionner. Parfois, les personnes arrivent à préserver un domaine, ou professionnel, ou familial, affectif. Mais si les deux domaines sont touchés, là, la personne, ses ressources s'épuisent et elle s'effondre.
Vous disiez que ça touche plus les femmes.
Oui.
D'après vous, pourquoi ?
Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être les femmes sont plus sensibles, plus... Je ne sais pas.
Peut-être hormonal ?
Ça peut aussi... Oui, mais à une période donnée du cycle, enfin...
Peut-être,
mais je ne sais pas pourquoi les femmes sont plus touchées comme ça.
Merci.
Je pense que les femmes, elles ont justement, ont peut-être... Un homme, il exprimera moins ses idées, sa tristesse, parce que ça sera considéré comme un aveu de faiblesse aussi. Ouais. Socialement, les choses... évoluer, mais...
Moi, j'ai l'impression que dans notre société, on fait peser aussi énormément de choses sur les femmes. Il y a peut-être ça un peu qui rentre en jeu. On leur demande d'être à la fois, de gérer le domaine de la maison, d'éduquer les enfants, de prendre en charge mentalement et dans les faits beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, parfois, on leur demande aussi de travailler, on leur demande de s'occuper de toute la famille, les parents, enfin...
Il y a une accumulation. En effet, parfois, la personne, quand elle est soumise à des stress trop récurrents, trop intenses, ça entraîne une surcharge mentale, comme on le dit habituellement en ce moment, et la personne, s'effondre. C'est que, les femmes, en effet, portent beaucoup de choses, ont deux vies... Le soir, il y a la deuxième vie qui commence très souvent. Il y a beaucoup de femmes seules aussi qui font face à toutes les responsabilités. Donc, si vous voulez, on peut discuter des symptômes, des signes, ce qui vous intéresse.
S'il est possible d'avoir, savoir ce qu'on peut avoir comme signes et symptômes. Je sais déjà pas mal de choses, mais si... Vous pouvez nous en dire plus.
Et ça peut passer inaperçu.
Après, il y a aussi dans les formes majeures et à l'hôpital, il s'agit de prendre en compte la crise suicidaire. Parce que quelqu'un, lorsqu'il est hospitalisé, il présente un risque.
Oui, et que pensez-vous de la dépression chez les enfants ?
Je trouve... elle n'est pas forcément... Elle est souvent masquée par un trouble du comportement, un trouble du caractère, par une énurésie, par des choses déplacées, qui n'est pas forcément une tristesse affichée, contrairement à l'adulte, où l'adulte va vraiment pleurer. Il y a des signes, parfois ce sont des dépressions masquées, il y a toutes sortes... Mais ce qui caractérise véritablement la dépression, quand on dit dépression, c'est la tristesse de l'humeur. Qui dure des pleurs, des manifestations anxieuses, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil, parce que la personne, elle est préoccupée, elle est soumise à des stress, elle a des difficultés d'endormissement, donc elle rumine, elle ressasse ses difficultés, et comment dire, au fil des jours, ça va altérer la qualité de son sommeil. Elle va se réveiller à 2-3 heures du matin, ou alors elle va présenter des angoisses vespérales la nuit vers 4-5 heures, elle va se réveiller, ne pas retrouver son sommeil, et au fil des jours, la qualité du sommeil va s'altérer. Elle sera plus fatiguée. D'ailleurs, souvent, la personne, elle est stressée. Et quand on a trop de stress, eh bien, ça conduit à l'angoisse. Et quelqu'un qui présente de l'angoisse trop longtemps, eh bien, il va se sentir triste. Il va s'épuiser. Ça modifie l'humeur. C'est un peu ça aussi, le schéma. Oui.
Quelle aide pensez-vous? Quelle aide pouvez-vous apporter à une personne dépressive?
Eh bien, tout d'abord, on évalue sa dépression. Quels sont les symptômes? Quand on dit un syndrome dépressif, souvent on qualifie un syndrome dépressif ou anxio-dépressif. Ça veut dire qu'il est associé à des manifestations anxieuses, des ruminations anxieuses, des cognitions, des pensées négatives. et avec une idée très négative de soi, c'est souvent la personne, elle n'y arrive plus. Ses ressources s'épuisent, elle se trouve face à une impasse, elle se sent submergée justement par la tristesse, par les pleurs, qu'elle ne peut plus contrôler. Elle perd un peu le contrôle de sa vie, elle ne peut plus fonctionner comme préalablement. Donc il y a certaines personnes vont avoir des crises d'angoisse, et d'autres, il y a plusieurs formes de dépression. Il y a des formes plus sévères où la personne va se replier, il y aura un émoussement enfin affectif, elle n'a plus plaisir, elle se retire un peu de la vie sociale, familiale, elle n'a plus de goût, elle n'a plus envie. Il y a un émoussement. Il y a même une personne dépressive, quand elle est face à vous, quand on voit la douleur morale, les traits sont fermés, contractés, il y a une espèce d'amimie, il n'y a plus d'expression, elle est figée. Ça, c'est déjà dans les formes les plus sévères. Mais au départ, pour s'en défendre, elle peut être active, voire hyperactive. Elle lutte. C'est pour ça qu'elle est épuisée, elle n'en peut plus de lutter. Donc j'essaie de voir aussi avec la personne qu'est-ce qui a favorisé, quels sont les facteurs déclencheurs de la dépression, pourquoi elle s'effondre, qu'est-ce qui a participé, comment ça s'est traduit chez elle. Parfois l'angoisse, la personne lutte, mais elle va avoir des contractures musculo-squelettiques, elle ne va pas admettre, elle ne peut pas, les femmes, elles disent, on ne peut pas craquer, j'ai les enfants à chercher à l'école, je ne peux pas me permettre de m'effondrer, je dois tenir. Mais à quel prix? Donc voilà, donc petit à petit, l'angoisse s'installe, les ruminations anxieuses s'installent de façon plus envahissante. La personne se dit, ben, j'y arrive plus, je suis nulle, vraiment je suis incapable. Elle culpabilise de causer du chagrin aussi à l'entourage. Donc il y a aussi, ça c'est très représentatif, la dépression, la culpabilité. Qui est gradué selon l'intensité de la dépression, de l'épisode dépressif, mais la personne se sent souvent coupable, elle est responsable de tout, la famille va mal, ou mon travail, je n'arrive pas à m'organiser dans mon travail, je suis nulle, elle se disqualifie, parce qu'elle perd confiance en elle. C'est surtout ça, hein, la dépression. Il y a la tristesse, il y a les manifestations neurovégétatives, il y a le sommeil, elle va manger, soit elle va compenser, elle va grignoter par nervosité aussi, ou alors elle va perdre l'appétit. Mais quand la personne arrive à l'hôpital, il y a une altération générale, globale de l'état général, de l'amaigrissement, une incapacité à organiser sa pensée, il y a des troubles de l'attention, de la concentration. Et parfois, quand elles luttent, elles sont voire un peu hypomanes, un peu exaltées, parce qu'elles veulent se convaincre d'être de bonne humeur. Et puis, du jour au lendemain, voilà, terrassées par l'angoisse.
Est-ce que la forte dépression, enfin, la grave dépression, peut mener à une schizophrénie, ou c'est deux choses différentes?
Ce sont deux choses différentes. Dans la schizophrénie, on peut repérer, après une période de décompensation psychotique, une phase délirante, après, dans l'après-coup, il y a souvent une phase dépressive. Mais ce n'est pas les mêmes caractéristiques d'une dépression, d'un sujet névrosé, qui a un bon contact avec la réalité. Merci. Mais une dépression majeure, la personne, on peut l'évoquer, ça conduit à des idées suicidaires, et c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Quand la personne arrive à l'hôpital, c'est un peu le parcours ultime de sa lutte. Elle ne peut plus. Donc c'est important de pouvoir repérer les idées suicidaires, le contexte, l'âge, le sexe. Je vous disais, les hommes, notamment certaines personnes comme les agriculteurs, quand ils évoquent des idées suicidaires, on prend ça très au sérieux, parce qu'on sait que quand ils se suicident, le geste est accompli. Voilà.
La différence, donc, avec une personne avec une grosse dépression et le schizophrène, la différence, c'est quoi? Avec la schizophrénie et la
Ce ne sont pas les mêmes symptômes. Un schizophrène, il va perdre le contact avec la réalité, il va avoir des idées délirantes, il va présenter d'autres symptômes. Qu'une personne, vous pouvez être très dépressive, mais c'est vrai, là je rebondis là-dessus, Edith, c'est bien Edith, oui. quelqu'un, la dépression dans sa forme grave peut conduire à la mélancolie. Et la personne va être complètement, il faut aussi tenir compte, du ralentissement psychomoteur. Elle est ralentie, voire figée dans la mélancolie, avec des idées de ruine. Parfois, on voit des personnes, elles ont l'impression d'avoir tout perdu. Leur travail, leur maison, elle va être endettée, donc pourquoi vivre? Je ne pourrais pas survivre à tout ça. Ce sentiment de perte fondamentale. Et donc ça peut conduire, ou un deuil difficile, un deuil pathologique, peut conduire à des idées délirantes. La personne entend, oui. La personne la décédée parler, la voix, donc ça peut être des hallucinations visuelles, auditives. Mais c'est articulé à la forme grave de la mélancolie. Et dans la mélancolie, la personne, il y a le syndrome de Cotard, va avoir l'impression de la négation de ses organes. Elle ne se sent plus animée, vivante. Donc la mélancolie, c'est la forme la plus sévère, la plus grave. Et c'est là où la personne peut... faut être vigilant.
Passer à l'acte.
Oui, peut passer à l'acte. Ça répond à votre question, Edith, pas totalement. Hein, par rapport à la schizophrénie, dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitiez...
C'est quand même deux sujets différents, donc je ne veux pas débattre sur la schizophrénie.
On peut l'aborder ultérieurement.
Oui, si vous voulez.
Parce que dans la dépression grave, on peut avoir, dans ces ruminations anxieuses, on a des pensées dysfonctionnelles qui ne sont pas... Vous pensez que vous êtes nul, mais tout montre dans la vie que tout ce que vous faites est plutôt bien. Mais c'est votre conviction, donc c'est une pensée qui n'est pas... C'est une fausse croyance, voyez. Et ça, c'est tout le travail après de thérapie, à reprendre les choses avec un autre regard,
ouais,
sur votre perception. Il y a toujours la perception de soi et la perception des autres, comment vous êtes perçu. Ce qu'on n'a pas évoqué aussi avec la dépression, c'est donc qu'il y a une altération de l'état général. Physiquement, la personne ne mange plus ou à l'inverse, grignote, prend du poids et n'ose plus sortir. C'est comme un peu un tampon avec la vie extérieure. Ça peut amener une recrudescence des addictions, des consommations d'alcool à visée anxiolytique pour s'apaiser. Il y a toutes sortes de cas de figure, bien entendu. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a tellement à dire.
Je voulais dire un truc,
Edith.
Oui,
puis je voulais aussi demander...
Il y a le sujet âgé aussi. Hein. Ouais, la dépression chez le sujet âgé.
Oui, aussi ça, j'en avais parlé déjà quand on faisait l'émission. Mais est-ce que à notre époque, les personnes savent faire la différence entre la grosse dépression et... Parce que bon, maintenant, on dit facilement, oh, il est schizo, voilà.
Ou bipolaire, aujourd'hui. Ou bipolaire, ce qui est,
on
galvaudé, c'est la bipolarité. Hein. Ouais. On est un peu déprimé ou on est un peu de bonne humeur, on est bipolaire. Hein. Il est up.
Oui, voilà. Donc, c'est ça que je voulais savoir, quoi. On catalogue vite, quoi. On dit vite, il est schizo, voilà, quoi.
C'est ça. On a une vue, une visée un peu symptomatique. Donc, les médecins, c'est un peu leur approche, hein, symptomatique, selon des classifications nosographiques médicales. Ouais. Et ensuite, ils proposent une thérapeutique. Et dans mon rôle, moi, je cherche à comprendre avec la personne... comment les choses se sont produites, comment elles sont arrivées. D'ailleurs, comme les personnes qui font une thérapie de couple, comment en êtes-vous arrivé là? Voilà, on cherche à comprendre dans son parcours qu'est-ce qui a participé à cet effondrement. Et voilà, à remettre un peu de sens et à comprendre un peu et après à repérer les ressources et possibles pour une reconstruction. Mais sachez une chose, tout le monde peut sortir du tunnel. Tout le monde. Le chemin peut être sinueux, long, mais tout le monde peut le traverser. Il faut y croire. Et je pense que ce qui est important aussi à l'hôpital, c'est dans mon rôle, j'attache beaucoup d'importance à ça, c'est lorsque la personne arrive, c'est de l'accueillir pour ce qu'elle est, sans jugement. C'est très important. Même si ça paraît parfois extravagant, enfin, il y a des situations parfois pas toujours faciles à comprendre, mais on accepte la personne comme elle est. Et c'est très important pour qu'il y ait une alliance de se montrer, de pouvoir repérer les émotions qui l'animent à l'instant T, même si c'est de la colère. voilà, toutes sortes d'émotions et de voir un peu comment les choses peuvent cheminer avec elle. Donc la bienveillance et l'empathie, c'est comme ça qu'on peut, parce que quand on parle de psychothérapie, il s'agit d'une alliance thérapeutique. Il faut créer une alliance. Quelqu'un qui arrive en crise et on lui dit, monsieur, vous ne pouvez plus sortir, madame, vous êtes là pour tant et tant de jours, vous ne pouvez pas ni appeler l'entourage, ni sortir, c'est pas toujours bien accepté. Donc il faut peu de pédagogie, il faut créer l'alliance.
Philippe. Quelles sont les solutions en général pour s'en sortir?
Est-ce que ça touche beaucoup? Oh, pardon.
Moi, je ne sais pas. Les solutions, elles sont nombreuses. Je crois que ce qui est important pour la personne, c'est déjà d'accepter ses troubles. On comprend toujours mieux ce qu'on en accepte, ou on accepte toujours mieux ce que l'on comprend. C'est de repérer, de pouvoir mieux comprendre son fonctionnement. C'est aussi le travail qu'on fait avec les personnes, comment elles fonctionnent. Parfois, la personne, elle est dans un mode opératoire. Elle est comme dans une mécanique, elle n'est pas bien. Donc, elle agit de façon mécanique. Sans se poser de questions, parce que sinon, la tristesse peut la gagner et elle va s'effondrer. Donc, elle ne veut pas penser. Donc, c'est prendre le temps de s'interroger sur sa façon d'appréhender les choses, comment s'établissent les relations affectives, selon quel mode d'attachement, les liens d'attachement. Parce que quand on dit angoisse ou dépression, c'est souvent lié aussi à des séparations, des ruptures dans la vie professionnelle, affective. Donc, comment la personne établit ses liens d'attachement aux autres, à sa famille, à son entourage proche. Repérer un peu le fonctionnement, comment elle se défend des situations difficiles. C'est ça, comment elle s'en défend. Soit elle va s'en éloigner, comme dans la phobie, ou soit le trouble anxieux va développer des TOC, enfin, toutes sortes de... Il y a tout un panel de symptômes, hein. Il s'agit de comprendre et de repérer comment ils sont survenus et quelle est leur fonction. Dans un symptôme, il y a toujours une fonction. Il y a une gêne, on est gêné parce qu'on dort mal, on est gêné parce que voilà, on évite telle situation, parce qu'on répète, on vérifie 15 000 fois la même chose. Ah, c'est pénible, mais je dois le faire, enfin, il faut le faire. Mais pourquoi? Mais malgré tout, il y a un bénéfice, ça participe à l'économie psychique du sujet, ça lui permet de fonctionner à un prix parfois coûteux, élevé. Voilà. Donc c'est un travail dans les solutions, c'est comment fonctionner autrement pour ne plus reproduire les mêmes choses et pouvoir repérer ce qui est préjudiciable et ce qui est douloureux. Mais surtout d'accepter. Beaucoup de personnes sont concernées, tout le monde dans la vie peut être concerné. À l'hôpital, on accepte tout public confondu, quel que soit le niveau socio-culturel. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire en soi et de faire avec ce qu'on a autour de soi, d'être dans une certaine réalité qui vous corresponde au mieux, me semble-t-il. Il y a beaucoup à dire. Hein. J'ai plein de choses à dire, alors je ne veux pas poser moi des questions parce qu'on n'a pas trop développé les symptômes, hein. Je ne suis pas sûre. Hein, Oui, Edith.
Est-ce que ça touche beaucoup de personnes?
La dépression? Oui. Oui, on disait 15% de la population générale. D'accord. Et dans sa vie. Et c'est important, je répète, j'insiste, de bien traiter la dépression. C'est pour ça qu'on n'a pas encore abordé la question des thérapeutiques, des traitements. Voilà. Mais un traitement... Ah, d'accord. Ok, Elsa. Voilà. Mais ça touche 15% de la population générale au cours de sa vie. Et une dépression non traité ou mal traité va présenter 40% de plus de récidive. Donc c'est important, c'est pas parce qu'on se dit un peu déprimé, il faut bien évaluer ce qui se passe. Surtout un geste suicidaire aussi. Quelqu'un qui a fait un passage à l'acte suicidaire, ça mérite un accompagnement bien structuré, bien consolider les choses et éviter un autre passage à l'acte. parce que plus on passe à l'acte, plus c'est problématique naturellement.
Quels sont les inconvénients et les avantages de votre métier ?
J'ai réfléchi un petit peu avant de venir, les inconvénients. J'en ai pas, à vrai dire, mais j'ai beaucoup de... C'est plutôt une grande richesse parce qu'on accède toujours à un univers différent. Chaque personne est différente, quand bien même elle présente les mêmes symptômes. Elle nous fait toujours découvrir un univers qui lui est propre. J'apprends énormément de choses grâce aux patients. Et voilà la richesse. C'est toujours un challenge. Il s'agit de toujours rester très humble et de ne pas travailler seul. À penser que voilà, on a une certaine perception de la situation. C'est à l'hôpital, la richesse de l'hôpital, c'est la diversité, c'est la pluridisciplinarité, c'est échanger avec ses collègues, échanger avec les autres. Et voilà. Et l'inconvénient, s'il y en a quand même un, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un majeur, c'est-à-dire, pour moi, c'est le plus difficile, c'est lorsqu'un suicide est réussi. Et ça, c'est difficile. Et plus j'avance en âge, et pourtant j'ai beaucoup d'années d'expérience, et plus, ça fait partie de la vie à l'hôpital. Quand on travaille en psychiatrie, on sait que ça peut se produire. Mais c'est toujours un aveu, c'est toujours très difficile. D'accord. Et l'autre inconvénient, mais ça fait partie de la psychiatrie des services fermés, c'est-à-dire qu'on est face à des situations aussi de violence. Surtout aujourd'hui, il y a une recrudescence aussi de la violence, des comportements violents. Donc, il faut composer. Voilà, vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Enfin, ils sont quand même importants. Ouais. Ils sont puissants.
Mila, un oui. Conseil pour les proches ?
Pour les proches ? Pour l'entourage ? Ouais. Eh bien, c'est-à-dire que...
Un conseil pour les proches. Comment détecter les premiers signes de la dépression et dans ce cas, comment réagir ? Qui peut nous aider ?
Pour vous, repérer quelqu'un autour de vous qui est concerné, voilà. Et bien voir un peu si son comportement change. Est-ce que son humeur change ? Est-ce que ses habitudes de vie changent ? Son caractère est modifié, hein ? Parce qu'il sera un peu plus taciturne. Parce que les signes avant-coureurs, c'est souvent une hyperactivité ou une réactivité. La personne va être taciturne, de mauvaise humeur. C'est là qu'on va dire, comme vous l'évoquiez, c'est hormonal. Mais non, pas nécessairement. Mais voilà, c'est repérer ces signes. Ou alors la personne va s'éloigner un peu des autres. Elle va plus venir le dimanche. Va éviter les situations sociales, elle va se retrancher petit à petit chez elle. C'est pouvoir physiquement voir si les expressions changent, si la personne est cernée parce qu'elle dort mal, si elle est tendue, c'est tout ça. C'est l'encourager à verbaliser, d'ailleurs je ne l'ai même pas encore mentionné, c'est la règle de base de mon travail, c'est la verbalisation des émotions, du ressenti, pour justement voilà, à l'hôpital, ce qu'on préconise en premier lieu, c'est l'anxiolyse, c'est faire tomber l'angoisse, l'anxiété, pour justement favoriser cette ventilation émotionnelle, quoi, pouvoir être authentique, voilà. Mais c'est d'être patient aussi, et de dire, voilà, je sais ce que tu traverses, c'est pas facile, ça peut prendre du temps, et sache que je comprends. Même si ce n'est pas facile d'entendre toute la journée que tu as envie de mourir et que tu ne t'en sortiras pas. C'est vrai, c'est épuisant pour la famille et c'est anxiogène aussi de savoir qu'un proche a des idées suicidaires qui peut à tout moment mettre en acte. C'est...
Et si la personne ne veut pas parler ?
Eh bien...
On voit certains signes, mais on essaie de questionner, mais elle dit « non, ça va bien, tu sais bien comment je suis, quand je ne veux pas parler, je ne veux pas parler ».
Très bien, tu n'as pas besoin de parler, mais peut-être...
Mais elle est mal.
Elle est mal. Alors peut-être on peut aller voir à l'extérieur, peut-être quelqu'un qui saurait avec qui tu ouvrirais ton cœur, un peu plus facilement. Après, il y a des tempéraments réservés. Essayer de faire une sortie ou, mettre un peu de musique. Trouver des choses... S'intéresser à ce que la personne aime faire. C'est toujours important de connaître un peu les goûts et les habitudes de chacun. S'il n'est pas expansif, s'il est plutôt introverti, il est comme ça. Vous n'allez pas le transformer, il ne veut pas parler.
Oui, mais oui. Il y a des jours, elle est comme ça.
Oui.
Il y a des jours, elle va rire. Elle va entraîner tout le monde.
Ça, voilà, ça, c'est pour ça. Ça aussi, ça fait partie de la dépression. Voilà. Comme on discute de plein de choses, mais il y a une instabilité émotionnelle aussi, voilà. Surtout dans la bipolarité. Il y a une fluctuation de l'humeur. Dans la bipolarité, surtout, il y a la dépression légère, mineure, le syndrome dépressif moyen ou majeur quand la personne s'effondre avec vraiment la tristesse, la personne est un ralentissement psychomoteur, une incapacité à organiser sa pensée parce qu'elle n'est plus en capacité, elle est envahie de tristesse, d'angoisse et elle ne peut plus fonctionner. Et aussi, après, il y a les troubles plus sévères quand les épisodes dépressifs se sont répétés successivement à plusieurs périodes ou non traitées avec efficacité, ça peut déboucher sur un trouble bipolaire. Et dans la bipolarité, il y a deux... Oui, on pourra en parler, parce que c'est vraiment une entité, c'est vraiment des troubles de l'humeur.
Et ça peut passer inaperçu ?
Non, parce que... la bipolarité, pendant des années, surtout si... Parce que dans la bipolarité, il y a la dépression unipolaire, c'est-à-dire qu'elle sera toujours comme une dépression majeure, effondrée, triste, et la personne peut être traitée, suivie pendant une dizaine d'années, et on se dit mais aucun antidépresseur ne fonctionne, il y a quelque chose, enfin qu'est-ce qui fait obstacle ? Et en fait, c'est la bipolarité, vous voyez ? Avec toujours une récurrence des épisodes. Il y a des périodes d'accalmie ou de stabilisation des troubles, mais elle va à nouveau présenter un épisode dépressif. Tandis que dans la bipolarité, enfin dans la phase 2, c'est-à-dire il y aura une agitation, il y aura une alternance, une fluctuation thymique. Elle sera tantôt, ça commence par l'hypomanie, un peu exaltée, un peu très joyeuse, subexcitée. Elle va dépenser beaucoup d'argent parce qu'elle va compenser. Elle va être un peu désinhibée. Dans la bipolarité, il y a toujours une note un peu, ce qui les rend très attachants et sympathiques, une note un peu extravagante, quoi. Par exemple, j'avais une fois suivi un monsieur, professeur d'allemand agrégé, et le jour de son mariage, il a trompé son épouse, il était un peu désinhibé. Il a acheté un pistolet en plastique. Il a brandi ça, il a par provocation contre un agent de police. Et c'est complètement extravagant. Voilà. C'est des cas extrêmes, mais voilà. Tandis qu'une personne déprimée, enfin sévèrement déprimée, ne va pas perdre ce contact avec la. Ne va pas être comme ça hors réalité. Vous voyez ?
On peut être bipolaire sans savoir.
Oui, parce que c'est confortable. Ça peut l'être, parce que la personne va se sentir légère, elle se sent aussi parfois invincible, un peu mégalo, et puis ce sont des personnes parfois appréciées dans le cadre du travail, elles sont très productives, elles dorment peu, il y a une altération du sommeil, donc elles se sentent pas fatiguées, elles sont plutôt dans... Voilà, il y a une hyperthymie. Elles sont elles sont plutôt sympathiques. Et elles peuvent faire plein de choses, entreprendre plein de choses. Il n'y a pas de limite. Il y a une perte des limites.
Et en bipolarité, est-ce qu'on peut passer par l'euphorie ?
Oui.
Et puis une demi-heure après,
oui.
Pleurer.
Oui, il y a une alternance des émotions et qui. Dans la phase, le temps de la période peut être resserré selon d'une personne à une autre.
Penser à une chanson ou quelqu'un et pleurer.
Oui, parce qu'il y a une labilité émotionnelle plus importante. D'accord. Il y a une émotivité qui caractérise plus les bipolaires, dans la bipolarité.
Merci.
C'est très important, l'aspect émotionnel. Ça entraîne parfois un trouble émotionnel. Ça va,
Que pensez-vous de la prescription de médicaments par les médecins ?
Parfois, elle s'avère nécessaire, c'est incontournable. Tout dépend. Quand c'est une dépression transitoire ou voilà, avec des symptômes mineurs qui sont déjà rapidement repérés, ben, la personne peut entreprendre des consultations. Elle va rencontrer un professionnel de santé, un psychologue, ou elle va faire quelques séances de sophrologie. Elle va parler à son médecin traitant. Et le fait déjà de verbaliser, de repérer ce qui ne va pas, ça, c'est déjà une aide. Mais quand la dépression devient vraiment s'installe de façon durable, avec des symptômes qui sont de plus en plus pénibles, qui empêchent un bon fonctionnement de la vie courante, que vous ne pouvez, la personne, quand elle ne peut plus travailler, elle se dit « je dois faire quelque chose ». Quand les idées suicidaires s'installent, que l'angoisse est là, qu'elle vous oppresse et qu'elle vous tenaille, il s'agit de faire tomber. Parce que parfois, les idées, ça aussi, dans la crise suicidaire, c'est important de repérer. Est-ce que c'est véritablement un désir de mourir, de disparaître, ou est-ce que c'est ne plus souffrir, anesthésier un peu ce qui est douloureux et c'est trouver un peu de repos? Voyez,
donc c'est
un appel au secours, interpeller l'autre, justement, sur cette incapacité à faire face.
Les médicaments, normalement, après, doivent un petit peu diminuer dans la dépression.
Oui, bien sûr.
Parce que bon, après, quelquefois, le corps s'habitue, quoi. Donc,
oui. Déjà, pour qu'un traitement soit donné, c'est qu'il y a une altération, comme je l'ai dit, je répète souvent, de l'état général, des troubles du sommeil, incapacité de dormir, une angoisse permanente, une tristesse très importante avec des pleurs, et ça toute la journée. Donc la personne ne peut plus, il y a une rupture avec la vie antérieure. Entre parenthèses, on pourra le reprendre, ça fait aussi penser à la dépression qu'on n'a pas mentionnée, la dépression de nature traumatique. Il y a plusieurs dépressions. Quelqu'un qui fait une dépression suite à un psychotrauma. Hein? Donc là aussi, il y a une rupture totale avec la vie précédente. C'est la vie de la personne a totalement implosé. Et ça aussi, ce n'est pas toujours évident à repérer. Donc voilà, donc le traitement va être établi par le médecin traitant ou le psychiatre pour traiter les symptômes vraiment importants comme le sommeil et l'angoisse, et pour restaurer l'humeur. Donc très souvent, il y a une association de l'antidépresseur avec l'anxiolyse. Parce que quelqu'un qui, pour faire un traitement de fond, proposer un traitement de fond, d'autres médecins ne préfèrent que donner un anxiolytique pour éviter... parce que quelqu'un qui prend des antidépresseurs durant plusieurs années, voire plusieurs décennies, bien, ça modifie le métabolisme neuronal et la personne, elle est habituée, elle peut plus, son cerveau est habitué aux molécules. Vous voyez ? Donc, et souvent, l'amélioration des troubles se survient après une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines.
Il peut y avoir dépendance ?
Oui, aux anxiolytiques, selon la famille des anxiolytiques, comme les benzodiazépines. Mais à l'hôpital, parfois, l'anxiolyse, elle est plus importante. C'est pour ça qu'on estime l'hospitalisation nécessaire pour que la personne puisse vraiment souffler, se laisser aller. Donc le traitement sédatif va être plus puissant. Mais parfois associé à un neuroleptique pour un anxiolytique puissant, pour vraiment que cette tension interne tombe. Ça aussi, hein, ça fait partie de la dépression, la tension interne élevée, enfin, toujours en lutte.
Toujours hyper tendue.
Voilà.
Je voulais demander aussi, une personne qui est dépressive, qui a pris des traitements pendant des années.
Oui.
Et que du jour au lendemain, elle a des idées noires, des idées suicidaires. C'est dû à quoi, en fait ?
À ce que vit la personne, aux événements de vie qu'elle traverse, qu'elle doit affronter. Ça dépend. Ça peut être... Qu'est-ce qui génère ces idées suicidaires ? Est-ce qu'elles sont simplement... Est-ce que déjà sont des idées noires, donc l'humeur est très sombre, triste. Est-ce qu'elles sont scénarisées ? Donc, vous voyez aussi, on évalue aussi à l'hôpital, c'est évaluer le risque suicidaire. Enfin, il y a un risque faible, un risque modéré, un risque majeur. Donc, c'est aussi pour ça que les personnes sont parfois mises et contentionnées en chambre d'isolement, ce qui est pas, ce qui peut sembler violent, mais c'est aussi pour les protéger.
C'est des idées, suicidaires, mais passagers.
Transitoires, vous voulez dire.
Voilà.
Mais comment vous l'expliquez ?
Je ne sais pas, parce qu'en
fait... Un découragement ? Ne pas trouver vraiment, d'avoir mobilisé beaucoup d'énergie, de ressources pour s'en relever, se reconstruire.
Plus dormir, ne plus avoir envie de rien.
Ah, ça, c'est les symptômes. Là, c'est à nouveau une décompensation de dépression. Mmh. À nouveau, ce sont les signes de la dépression qui sont présents et qui s'agit, c'est comme une maladie. Il s'agit de la traiter.
Avoir l'impression de ne plus servir à rien.
Voilà, ce sentiment d'inutilité.
Et c'est...
Très important dans la dépression.
C'est des choses qu'on...
Ça ne sert à rien.
Bon. Que j'ai du mal à comprendre. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, quoi, en fait.
Et du coup, ta question, c'est... est-ce que c'est pourquoi ça arrive alors que je suis déjà en traitement, c'est ça ?
Ça fait des années, oui.
Oui, donc peut-être si ça fait des années, vous êtes peut-être soumise à des épisodes dépressifs récurrents. Et qui ne vous ont plus permis de... Enfin, qui amènent ces symptômes désagréables de façon transitoire ou temporaire. Mm-hmm. Parce que vous dites du jour au lendemain, et c'est passager. Donc après, vous pouvez à nouveau retrouver... Le médecin va réajuster le traitement, il va peut-être majorer l'anxiolyse, il va peut-être augmenter l'antidépresseur pour vous permettre de réajuster un peu vos idées à votre... À des perspectives. Ça aussi, c'est un mot important à retenir dans le cas de la dépression. Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme? Quelqu'un qui est au fond, de l'abîme, il ne peut pas dire, ben voilà, je vais faire le tour du monde, ou je vais construire une magnifique maison, ou je vais, c'est voir à court terme déjà. C'est par palier.
D'accord.
Et que pensez-vous d'une personne qui n'a jamais fait tentative de suicide et du jour au lendemain passe à l'acte et ne se rate pas ?
Ah oui, parfois il y a des ça arrive, malheureusement.
Ouais.
Et c'est très violent.
Ouais.
Surtout que parfois ces personnes-là, elles sont prises, on appelle ça un raptus anxieux, elles sont prises d'une pulsion comme ça, très autodestructrice.
On appelle ça un trou noir.
Un trou noir ou un raptus anxieux. Mmh. Et souvent, elles font un geste comme ça, très impulsif, qui n'a aucun signe n'a pu être perçu. J'ai un jour reçu une dame, elle ne sait jamais... Et ça rend les choses difficiles. Pour l'entourage, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'étiologie, il n'y a pas de cause. Ça aussi, c'est important de repérer l'étiologie des troubles, la cause. Qu'est-ce qui favorise ce passage à l'acte ? Parce que pour passer à l'acte, il s'agit d'être dans une certaine disposition d'esprit. Là, c'est comme dans la psychose, vous évoquez la schizophrénie. Quelqu'un qui est schizophrène va être dissocié de la réalité. De toute façon, c'est une défense, les délires. C'est un mécanisme de défense. C'est pour mieux se protéger d'une réalité violente ou difficile. Elle va se dissocier, elle va tellement se déconnecter, elle aura l'impression de ne plus appartenir au monde vivant, aux autres. Il n'y a vraiment plus rien qui la... Elle se sent partie... Enfin, elle n'a plus rien qui la raccroche. Et c'est ce qui favorise, malheureusement. C'est une dissociation. C'est comme si elle perdait le pied avec la réalité. Et c'est ce qui favorise ce passage à l'acte. Donc, toujours important, elle est déconnectée. C'est comme vous vivez un traumatisme, vous êtes dans un état de sidération, pour vous en protéger, vous êtes comme dissocié. Vous perdez un peu des repères de votre vie pour vous en protéger. Vous n'êtes plus dans l'événement. Pour vous en extraire, vous êtes comme dissocié, pour ne pas subir justement la violence de la situation ou l'impact, pas vous laisser impacter.
Je voulais vous demander, vous qui êtes dans cette profession, vous savez vous protéger ?
Je dirais oui. Je dirais que certaines situations m'ont beaucoup affectée, bien entendu, marquée aussi. Et oui, c'est important de s'en protéger. pour être disponible pour l'autre. C'est ça, l'empathie, c'est ne pas adhérer totalement. C'est pouvoir comprendre ce que l'autre sent, se mettre à sa place, pouvoir identifier et comprendre les ressorts de son mal-être, mais ce n'est pas m'identifier à vous. Sinon, voilà, il n'y a pas de travail possible. Sinon, je vais ressentir, si je m'identifie à vous, je vais ressentir la même chose. Ce n'est pas du tout thérapeutique. Vous voyez ? Bon, on s'en protège, oui. J'ai des consultations en tête que j'ai entendues il y a plusieurs années. Il y a des choses marquantes, bien entendu. C'est la difficulté du métier. Mais oui.
C'est peut-être là les inconvénients qu'on parlait de tout à l'heure, non ? Que c'est resté dans votre tête
Certaines situations. Mais la richesse de l'hôpital, c'est de pouvoir justement débriefer. On peut en parler à ses collègues, on peut déposer, on peut échanger. Voyez, d'où l'importance aussi dans le trauma et par rapport aux émotions, les événements qui vous impactent du point de vue neurologique, c'est dans travailler les émotions, c'est au niveau de l'amygdale. Hein. C'est pour ça que souvent il y a des cellules d'urgence qui sont proposées pour ventiler les émotions, faire un débriefing, pouvoir verbaliser, surtout si la personne est en stress aigu, enfin tout dépend de l'état clinique qu'elle présente, mais pour que ces événements ne s'installent pas durablement, vous voyez, dans la mémoire, comme qui est l'hippocampe. L'amygdale, ça va être au niveau émotionnel, donc c'est important de pouvoir se libérer de ça.
En parler
rapidement, pour que ça ne s'incruste pas et se solidifie. Après, ça ne peut plus se dissoudre. L'événement est là, ça fait partie de vous.
Est-ce que c'est conseillez-vous des activités extérieures pour aller mieux ?
Ah oui, en premier lieu, déjà dans le cadre de l'hôpital, avant de pouvoir reprendre pied totalement, on ne va pas dire aller faire du sport, mais quand on n'est pas bien, on n'aime pas son corps, on n'a pas parlé de ça, hein. Il y a aussi les troubles des conduites alimentaires, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, mais on ne va pas dire allez, faites du sport, il faut avoir l'énergie. Donc, et puis la personne, quand elle est en retrait chez elle, isolée socialement, affectivement, elle ne va pas s'exposer comme ça. Donc il y a souvent des ateliers thérapeutiques qui sont proposés, c'est l'hôpital de ville, hein, dans les hôpitaux de jour. Sont des activités pour reprendre goût à faire des choses, mais pas seulement faire des choses, c'est aussi évaluer son autonomie. Est-ce qu'on n'a pas trop perdu ? Est-ce qu'on peut à nouveau avoir une certaine vivacité d'esprit, se concentrer sur une tâche ? Enfin, vous voyez, il y a plusieurs paramètres qui sont approchés. Après, il y a la sophrologie, il y a plein de choses qui sont mises en place aujourd'hui, hein, l'hypnose, la méditation pleine conscience, mais aussi, après, retrouver du lien, c'est ça. Oui. On est avant tout humain, donc on a besoin de lien, le lien social, pour rompre justement ce retrait, ce repli.
Merci.
Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Nous vous remercions pour vos réponses. Notre émission touche à sa fin. Nous laissons la parole au public. Avez-vous des questions ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Peut-on dire s'il y a une prédisposition génétique à la dépression ?
Ça y participe. Quand on reçoit une personne, on évalue toujours avec elle si dans son contexte familial, certaines personnes ont présenté un épisode dépressif majeur ou s'il y a eu des tentatives des suicides ou des tentatives de suicide. Ça peut, il peut y avoir une sensibilité, oui, génétique.
Et quand on...
Surtout en plus dans la bipolarité. Quelqu'un qui a un parent bipolaire a plus, ou dans la schizophrénie, il y a plus de chances, le pronostic de présenter des épisodes dépressifs importants est plus élevé, en effet.
Et par exemple, par rapport à la situation sanitaire que l'on vit depuis le début de l'année 2020, par exemple.
Oui.
Y a-t-il eu une corrélation entre les différentes phases de contamination et le nombre de dépressions ou de cas de dépression ?
Ou de troubles anxieux, de l'anxiété qui est majorée, déjà face à la maladie, la perte de l'emploi, parce que aussi dans une dépression, on recherche aussi l'étiologie, les causes, et souvent c'est la précarité, les facteurs professionnels, les problèmes financiers qui entraînent des stress permanents ou une instabilité aussi, comme vous parliez de cette situation sanitaire, l'isolement, la rupture des liens, l'instabilité des divorces, les séparations, les relations affectives beaucoup plus... Enfin, l'instabilité de tous ces paramètres familiaux, sociaux, affectifs, ça favorise.
Et en fonction des tranches d'âge, par exemple, y a-t-il eu une différence en termes de nombre de cas, par exemple? On sait que les personnes âgées, on parle souvent de glissement, par exemple. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la dépression?
Sûrement. Une personne âgée qui est restée plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans ses proches, peut se laisser aller. On appelle ça, oui, le phénomène de glissement. Ça a été majoré, on en a beaucoup parlé pendant la... avec le problème qui s'est produit dans les EHPAD. Oui, ça y participait. Mais on ne parle pas assez des jeunes. C'est très dur pour les jeunes. On parle beaucoup du sujet âgé, certes, la dépression du... Mais les jeunes ont été très impactés par cette crise sanitaire. Quelles projections dans l'avenir peuvent-ils avoir? Trouver un stage, c'est très compliqué. L'autre jour, je voyais des petits gamins bambins de l'école tous masqués. C'est triste. Enfin, ça a entraîné d'autres modes sociaux, contacts sociaux. Mais les jeunes ont été particulièrement impactés. Et chez eux, il y a beaucoup plus de troubles anxieux et de tentatives de suicide parce que ils étaient sans leur famille, ils ne pouvaient plus avoir un deuxième job pour financer leurs études. Et c'est la précarité, elle les concerne. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des jeunes et qu'on ne parle pas assez des adolescents qui, déjà, c'est une période sensible. On n'a pas évoqué non plus la dépression. On a parlé de l'enfant, mais chez l'adolescent aussi. Hein, c'est parfois très important.
Dernière question. Y a-t-il des milieux socio-professionnels dans lesquels la dépression est plus fréquente que d'autres?
Peut-être quelqu'un qui est soumis à des stress et des conditions de vie plus difficiles sera plus facilement vulnérable, je dirais.
Mais vous, à l'hôpital, vous observez pas sociologiquement des...
Ah non, on reçoit tout le monde, médecins, directeurs. Comme vous disiez, parfois, il y a un pattern génétique, donc selon les événements de vie, et quand bien même on peut avoir un niveau de vie confortable, on peut vivre des choses très douloureuses, la maladie, les deuils. Tout ça, ça favorise aussi des dépressions. Hein, un deuil pathologique, c'est compliqué. Est-ce que je réponds à votre question?
J'ai l'impression que on parle beaucoup de la souffrance au travail depuis quelques années. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de milieux socio-professionnels, comme tu disais, où en fait on peut retrouver du mal-être, j'ai l'impression. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ça nous arrive souvent de croiser des gens, ils disent qu'ils ne se sentent pas bien dans leur boulot.
Mais parce que oui, le boulot n'est plus aussi stable, peut-être. Souvent, dans la dépression aussi, quand la personne se disqualifie, se dévalue, se déprécie, c'est souvent lié à un manque de reconnaissance de son travail. C'est très important. Et c'est pour ça que c'est douloureux, parce que la personne, elle perd l'estime de soi. Elle se dit « je ne sers à rien » ou « ce que je fais n'est pas pris en compte ». Par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, le monde du travail est complexe, donc les pratiques professionnelles aussi, et ça impacte aussi le sujet. Vous avez d'autres...
Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de dépression dans ce monde actuel par rapport au monde avant?
Je pense, hein. Je ne sais pas.
C'est pas la même vie.
Est-ce que c'est dû à la vie moderne ou les patrons, qui, par exemple, vis-à-vis de leurs employés, qui sont de plus en plus exigeants.
Aussi, aujourd'hui, on est tous soumis à des à la productivité. Mais c'est pour ça que je disais que j'étais attachée au service public, c'est-à-dire accueillir tout le monde. C'est la médecine pour tout le monde, pour tous, sans distinction. Et aujourd'hui, ben, tout est... Parce que c'est comme ça, c'est l'économie. Il faut... Et tout est rentabilisé. Il faut rendre des comptes par rapport à des exigences financières qui peuvent s'entendre, mais ça modifie quand même la santé, le rapport à la santé aussi. Donc les soins, c'est pour ça que je suis très 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 heureuse, et je ne cesse de le répéter, d'appartenir au service public et de, voilà, et d'en défendre ses valeurs. Voilà.
On vous remercie.
Avec plaisir, n'hésitez pas, si vous avez des questions à approfondir. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne, avant de se quitter, qu'on énumère bien les symptômes de des dépressions, oui, des différentes dépressions, oui, les formes, oui, cliniques.
Oui, si possible.
Si c'est possible, oui.
Mais c'est tout à fait possible. Tout est possible. C'est ça aussi qu'il faut se dire, hein, quand on travaille à l'hôpital avec des gens qui veulent mourir, hein, tout le temps. Tout est possible. Alors, vous voulez que je vous...
Non, allez-y.
J'y vais ? On reprend les formes cliniques, selon l'intensité de la symptomatologie dépressive. Alors, c'est la dysthymie, c'est-à-dire des fluctuations d'humeur variables, mais pas très franches, pour un épisode dépressif mineur, donc on qualifiera de léger. Ensuite, il y a l'épisode dépressif majeur, et de façon plus intense, plus puissante, c'est la mélancolie. Donc, selon la périodicité de la symptomatologie dépressive, il y a la dépression saisonnière. Certaines personnes présentent des épisodes plus marqués au printemps ou à l'automne, avec la perte de la lumière, ou un trouble dépressif récurrent, ou un trouble unipolaire, c'est-à-dire toujours selon la même déclinaison de symptômes. Selon l'âge et de survenue de la symptomatologie dépressive, donc il y a la dépression de l'enfant, de l'adolescent, de la grosse postpartum. Certaines personnes développent un épisode après la naissance de l'enfant, et du sujet âgé, comme vous l'évoquiez. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un déprimé, d'authentiquement dépressif, présentera une douleur morale importante, et une souffrance psychique importante, et son fonctionnement aura vraiment changé. Et l'intervention médicale surviendra dans les 2 semaines. Il faut vraiment qu'il y ait un changement, au moins 2 semaines. Donc, d'abord, ce sont de l'anxiété, des ruminations anxieuses, souvent des troubles de l'endormissement, parce que la personne est tendue, n'arrive pas à se relâcher, envahie, elle a tous ses soucis qui reviennent en boucle, elle se réveille la nuit, les soucis reviennent en boucle, elle ne retrouve pas le sommeil, une altération de la qualité du sommeil, et c'est à ce moment-là que la personne perd un peu ses forces, parce que, voilà, le manque de sommeil entraîne aussi de la tristesse. Et une personne déprimée est aussi très fatiguée, parce qu'elle n'en peut plus de lutter. Cet épuisement psychique, ralentissement psychique et moteur, elle est ralentie. Voilà, la tristesse prédominante est fluctuante. Et puis ce qu'il s'agit de voir, c'est aussi la durée d'un épisode qui peut varier d'une personne à une autre. Souvent, ça peut durer, en moyenne, on dit 6 mois, mais le traitement sera prescrit 6 mois plus tard, successifs, enfin, pour vraiment que la dépression se guérisse au mieux. Voilà, pour empêcher, à titre préventif, pour une nouvelle récidive. Voilà, comme je vous ai dit, symptômes neurovégétatifs aussi, la personne, ça peut aussi être dû à des problèmes hormonaux, hein, comme la thyroïde, Ou alors un problème aussi organique. Quand la personne arrive à l'hôpital pour un épisode dépressif ou un passage à l'acte, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? On va évaluer aussi du point de vue organique. Il n'y a pas que la parole, il faut faire un bilan global et exclure une cause organique ou une tumeur ou un trouble neurologique qui aussi modifie le caractère et peut entraîner des réactions un peu inappropriées. Voilà. Donc, ensuite, il y a la forme sévère, c'est la mélancolie, comme je vous l'ai dit. C'est clair pour vous ?
Oui.
Donc, la mélancolie, les symptômes dépressifs sont très intenses. La personne est très fermée, elle est figée. Elle n'a même plus goût à se lever, elle ne peut plus se lever. Elle n'a plus goût à se laver, à s'habiller. Elle ne mange plus. Donc c'est là aussi qu'intervient l'altération de l'état général. Elle ne mange plus, elle est complètement ralentie, couchée, clinophile. Et selon l'intensité ou la gravité des symptômes, la personne peut penser qu'elle est incurable. Ça aussi, c'est très, très patent de la dépression. La personne a vraiment l'impression qu'elle ne s'en sortira jamais, qu'il n'y a pas d'issue. Donc, autant partir. Vous voyez ? Ça, voilà. L'impression de ruine. Voilà, j'ai perdu mon travail, je vais perdre ma maison, ma famille va être à la rue, j'ai tout perdu. Et on lui dit, mais non, vous voyez, vous avez telle possibilité. Non, elle est convaincue. Vous voyez ? Ça entraîne aussi des fausses croyances, enfin des pensées totalement dysfonctionnelles. Et la forme la plus grave de la mélancolie, c'est vraiment le syndrome de Cotard où la personne, elle dit, mais je ne suis plus vivante. C'est l'impression de pourrissement, de négation des organes. Ah oui, c'est une momie. C'est... Voilà. La bipolarité, c'est clair ?
Et la schizophrénie, elle fait partie du dernier chapitre là, que vous avez dit là,
non. Non. La schizophrénie, c'est une pathologie différente. La personne peut être déprimée après un épisode psychotique. Elle peut traverser une phase délirante et quand la phase délirante sera apaisée, c'est-à-dire que les idées seront plus congruentes à la réalité, la personne, comme en contre-coup, sera déprimée. C'est différent qu'un épisode dépressif majeur ou mélancolique. Et dans la schizophrénie, ils ne sont pas toujours déprimés. Dans un premier temps, ils sont délirants. Ça aussi, parfois, dans les services fermés, on a un jour reçu, ça m'a beaucoup touchée, un monsieur très sympathique, apaisé avec les médicaments. Mais il avait souvent ce qui amène aussi à l'hôpital, c'est la rupture avec les médicaments. Les gens se sentent mieux, ils se disent « Oh, j'en ai assez de prendre des traitements, j'arrête. » Et voilà. Donc, il s'agit toujours d'être très compliant et d'être très vigilant aussi par rapport à ça. Toujours est-il que ce monsieur avait arrêté son traitement parce que quelqu'un qui travaille sur machine ou qui se lève à 3 heures du matin, il faut assurer. Donc, les traitements, c'est plutôt sédatif. Et voilà. Et ce monsieur était tellement délirant. Il a eu des visions. Il était persécuté dans le TGV. Il a poignardé une femme. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut conduire à des gestes. C'est extrême, quelqu'un d'autre va mettre le feu à sa maison parce qu'il entend des voix, il est persécuté. Le psychotique, il perd pied avec la réalité. Un dépressif majeur, il est toujours dans la réalité. Mais elle est très altérée, mais elle est sombre.
Un dépressif majeur, il peut perdre la réalité aussi. Un dépressif majeur.
Oui, mais il ne va pas voir des cosmonautes dans... Il ne va pas voir des... Vous voyez ? Il ne va pas voir des soucoupes volantes dans le ciel. Vous voyez ? Le ciel sera noir. Enfin, non, mais c'est caricatural. Mais un psychotique, ils sont très touchants. C'est très difficile aussi. Et le point commun de la schizophrénie, je dirais, avec la dépression, c'est qu'un schizophrène... Ce qui est terrible dans cette pathologie, c'est qu'il n'a pas de plaisir. Il y a une anhédonie, je ne l'ai pas mentionné pour la dépression. Il y a une perte de plaisir à faire des choses, à être avec les autres. Et un schizophrène, parce qu'au fil des ans, un dépressif, il peut prendre son traitement et retrouver, ouais. Comme votre chanson joyeuse. Un schizophrène, c'est plutôt selon ses compétences de base, de départ intellectuel. Il est sur un versant déficitaire. C'est terrible, difficile en tout cas. Je n'aime pas dire terrible, ça stigmate, mais c'est difficile. Donc la pire des choses dans la schizophrénie, c'est aucun plaisir, un émoussement. Et ça, vous le voyez tout de suite dans la clinique, quand vous parlez à quelqu'un, vous recevez quelqu'un, vous voyez tout de suite si vous avez prise ou un schizophrène, ça glisse. Parce qu'il n'est plus là, il est là sans être là. Ça ne le concerne pas, ça ne le touche pas. Ou il a une certaine... Il est dans le déni. C'est aussi un mécanisme de défense, voyez. Okay. Il y a plein de choses à dire. Hein, ouais, mais...
Et je voulais vous demander, un dédoublement de personnalité.
Oui.
C'est quoi exactement?
Eh bien, c'est quelqu'un qui va se prendre pour quelqu'un d'autre. Comme dans la schizophrénie. Il va dire, je suis... le fils de Claude François.
Ah oui, ils sont là déjà, vous aussi. Ouais.
Voilà.
C'est ça, exactement.
Par exemple, un dédoublement. C'est qu'il perd sa réalité, sa propre réalité, son enveloppe corporelle, il se dédouble. Ouais. Donc, c'est pas lié à la dépression qu'on entend. À part peut-être en... Non, c'est vraiment du côté de la psychose.
D'accord. Moi, j'avais rencontré le fils de Dieu, alors c'est pour ça.
Voilà. Ou quelqu'un qui va dire « je suis Dieu ».
Fils de Dieu.
Mais voyez, quelqu'un, dans la bipolarité, il peut y avoir des idées délirantes. Et la personne va être plutôt... comme il n'y a plus de limites, elle va se sentir... tout est possible, invincible et un peu mégalo. Et c'est pour ça que ça favorise, elle est désinhibée. Il y a une hypersexualisation aussi des relations dans la bipolarité. Elle est désinhibée, elle a plus de... Tout est dans le plus. Dans la phase hypomaniaque qui précède la manie. Quelqu'un qui est maniaque, qui arrive dans un état maniaque à l'hôpital, il ne tient pas assis, il va se lever, il va toucher à tout, il ne peut pas se concentrer, il se lève, il se rassied. C'est la phase maniaque d'agitation. À l'inverse de la... Voilà. Mais en phase dépressive, tout d'un coup, quand il s'effondre, voilà. Vous voyez ? Dans la manie, il y a cette hypomanie, cette exaltation de l'humeur. Tout est génial.
Ah oui, d'accord.
Et ils aiment bien être dans cette... Et c'est souvent dans ces périodes-là, d'ailleurs, qu'ils se suicident, parce que tout est... il n'y a pas de limite. J'arrête de parler.
C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Merci pour votre écoute. Nous remercions l'équipe d'animation. Merci à Elsa du Micro Rebelle, à Grégory du CCAS de Arne et à Madame Mila Rameau, notre invitée. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.micro-rebelle.fr. Au revoir.
Au revoir à tous et je suis heureuse de partager ma pratique et d'avoir avec vous et d'avoir passé ce moment avec vous. Merci Elsa, très cool Elsa.
Merci.
Merci à vous.
Les chagrins sans raison, tu croiseras aussi la trahison, tu entendras leurs paroles à foison, et parfois même jusqu'à la déraison, tu verras la bassesse, l'impudeur, tu connaîtras aussi l'agression. Tu verras des micros tendus vers des femmes et tes enfants nus. Puisses-tu vivre, continuer. Puisses-tu aimer, continuer. Puisses-tu puiser un peu tôt dans le puits de tes nuits. Puisses-tu sourire.
foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison. Sourcils.